BPM, élection régionale 2021.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur BPM. Les élections régionales auront lieu le 20 et 27 juin prochain. Cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales d'Île-de-France viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Stuhlmann et Monique Brochot, candidat sur la liste d'Audrey Poulvar, candidat tête de liste de la liste Île-de-France en commun. Aux élections régionales d'Île-de-France, cette liste est soutenue entre autres par le Parti Socialiste, le PRG, les Écolos. Solidaire. Monique Brochot, bonjour.
Bonjour.
Pierre Stuhlmann, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monique Brochot, vous avez été maire PS de Mantes-la-Ville. Pierre Stuhlmann, vous êtes premier secrétaire fédéral adjoint du Parti Socialiste des Yvelines. Audrey Poulvar, des Cantelles, adjointe au maire de Paris. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre candidature ? Monique Brochot.
Eh bien, écoutez, vous l'avez rappelé, j'ai été maire socialiste pendant un mandat, donc maire de gauche. Gauche, je suis restée et je suis sur des valeurs qui sont sur la liste Île-de-France en commun pour une région qui lutte contre les inégalités, une région écologiste. Nous voulons une région plus solidaire, démocratique et féministe. Pour faire de l'écologie le socle des politiques publiques. C'est mon engagement sur cette liste.
Et vous, Pierre Stuhlmann ?
Oui, alors moi j'ai rejoint le Parti Socialiste en 2017. Je suis de métier dirigeant d'entreprise, très investi dans l'économie sociale et solidaire. Je me suis engagé donc à Mantes-la-Ville. Il me paraissait important que le Mantois soit bien présenté dans cette liste et c'est la raison de notre candidature à tous les deux pour que le Mantois soit bien présenté dans les Yvelines et sur la région.
Alors une compétence de la région, les transports, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de gens dans le Mantois qui prennent les transports. Comment garantir ? Déjà, vous voulez la gratuité des transports en commun et un accès aux transports publics de qualité. Ça veut dire quoi, de qualité ?
Eh bien, la gratuité des transports en commun s'inscrit dans un schéma global de mobilité. Donc, on aura effectivement, il y a trois mesures. Une mesure de pouvoir d'achat, sachant qu'en moyenne, la gratuité des transports fera économiser environ 350 euros par an. Ça fait plus donc de justice sociale et une responsabilité face à l'urgence climatique. Donc, dans cette gratuité, donc j'ai dit, ça s'inscrit dans un schéma global. Donc, les équipements seront améliorés avec plus de sécurité, plus de régularité et aussi un changement dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que on l'a vu là avec la crise sanitaire, il y a eu le télétravail qui a été mis en place. Donc, il faudra peut-être aussi voir en négociant avec les entreprises et les salariés, comment on pourrait faire, par exemple, 2 jours de télétravail par semaine, rapprocher le logement du travail, faire des gares, des lieux de vie et des parkings au bord des gares. Et aussi un réseau cyclable. Tout ça pour dire qu'avec la gratuité, on pense qu'on aura beaucoup plus de monde qui prendra les transports, mais il y aura peut-être moins d'afflux dans les transports.
Alors, vous parliez justement de la ponctualité des trains. Que la région peut faire pour améliorer cette ponctualité ? Parce que dans le Mantois, on est servi, hein. Je crois qu'on peut le dire.
Eh bien, on a déjà EOL qui va arriver, donc on peut penser qu'avec l'arrivée d'EOL, on aura des trains plus ponctuels. Il faudra aussi travailler sur le faire en sorte que les bus et les trains soient coordonnés, qu'on n'attende pas le bus ou le train, que faire en sorte que tout aille mieux. Et puis après, effectivement, la ponctualité, c'est tous les incidents qu'il y a, donc faire en sorte qu'il n'y ait plus, qu'on ait des trains qui roulent et qui soient en parfait état.
Alors, abordons à présent l'aménagement du territoire. L'un de vos engagements de cette liste, c'est de créer une région 100% cyclable. Alors, comment on atteint cet objectif ? Je pars de Mantes-la-Jolie, je veux aller, aller manger du brie. Ça va être compliqué, non? Vous allez pouvoir le faire.
Alors,
je vais à Meaux.
Non, mais si c'est pour aller à Meaux, effectivement, en vélo, ça va mettre un petit peu de temps. Mais l'idée d'abord, c'est que les trajets du quotidien se fassent le plus possible sur des circulations douces quand on le peut. C'est-à-dire que tous ceux qui désirent se déplacer à vélo, en trottinette, puissent le faire. Ce qui veut dire aider les communes à construire des pistes cyclables, aider les départements de la même manière, hein, aider en fait et prévoir réellement avoir une politique volontariste sur ces déplacements doux. Et les déplacements doux, c'est aussi des déplacements mixtes, c'est-à-dire on prend un peu le train, on a son vélo, ce qui veut dire des rames aménagées pour pouvoir prendre son vélo avec soi, etc., etc. Hein, tout
ça. C'est vrai que c'est compliqué de prendre le train à vélo.
C'est très compliqué de prendre aujourd'hui le train à vélo parce que les rames ne sont pas aménagées pour ça. Or, il y aura, de ce point de vue-là, des progrès, hein, au fur et à mesure. On ne va pas changer toutes les rames d'un coup, mais au fur et à mesure, on va essayer de prévoir de plus en plus de places pour pouvoir emmener son vélo avec soi. Et bien sûr, l'aménagement des gares, par exemple, avoir des parkings à vélo, hein, parce que ça aussi, on va jusqu'à la gare en vélo, et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Il faut pouvoir les garer en sécurité, dans des boxes à vélo fermées, individualisées, etc., qui ne soient pas dégradées et que tout se passe bien.
Alors, quelles sont vos propositions concernant le logement en Île-de-France?
En Île-de-France, on part d'un constat, il y a 1,2 million de mal logés, 750 000 demandes de logement social en instance. La région la plus riche du pays est celle des plus grandes inégalités. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On va multiplier par deux le budget d'aide à la construction de logement social. Ce budget avait été réduit de moitié sous le mandat de Valérie Pécresse. On a aussi une proposition qui est de sanctionner les communes qui ne respectent pas la loi SRU. Vous savez, chaque commune de plus de 3500 habitants doit construire 25% de logements sociaux. Actuellement, certaines communes Il y a aussi l'encadrement des loyers et puis enfin la rénovation des logements, par exemple la rénovation énergétique des logements sociaux, un plan d'éradication du logement insalubre et faire en sorte qu'il y ait une réelle mixité dans l'habitat, c'est-à-dire qu'on ait de l'accession à la propriété, du logement social et bien entendu lutter contre l'étalement urbain.
Alors, justement, j'ai une question. On veut construire plus de logements. On les construit où? Dans les zones ou dans des campagnes
Non, on a dit on luttait contre l'étalement urbain. Donc, on reconstruit la ville sur la ville en ménageant des espaces verts. L'exemple typique, c'est Mantes Université où on est en train de construire, on veut construire une école sur un parc.
Oui, c'est.
Donc, le but, c'est bien, on garde des espaces verts et on construit en luttant contre l'étalement urbain. Et il y a dans les petits villages ruraux toujours des locaux, des maisons qui peuvent être réhabilitées pour faire du logement social.
D'accord, alors on va passer à un volet qui concerne la région, les lycées, l'enseignement. Vous voulez lutter contre le décrochage scolaire et y a-t-il des choses à améliorer dans les lycées selon vous?
Oui, beaucoup de choses puisque Valérie Pécresse avait promis un plan lycée qu'elle a mis sur la mandature au final dont elle a tenu les promesses à moins de 20%. Donc,
Après, est-ce qu'il n'y a pas l'effet Covid aussi?
Non, il n'y a pas l'effet Covid.
Le
fait de ne pas avoir mis l'argent pour rénover les lycées comme elle l'avait promis, ça n'a rien à voir avec l'effet Covid. Ça, c'est les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, et en l'occurrence, elle en a fait beaucoup sans les tenir. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on fera, c'est rénover tous les lycées délabrés et vétustes, hein, parce que il y en a beaucoup, et entre autres, concrètement, quand on va dans les lycées et qu'on voit l'état des toilettes des lycées, et c'est un point quand même de santé publique, de hein, et de santé pour les enfants, hein, pour les en tout cas les jeunes, c'est lamentable de voir certains lycées dans l'état où ils sont. En dehors de ça, pour pouvoir lutter contre le décrochage scolaire, hein, il faut d'abord renforcer. Il y a une grande inégalité dans la région. Il y a des endroits très riches avec, comme par hasard, des gens qui réussissent très bien, et puis des endroits moins favorisés, où on a des taux d'échec scolaire qui sont pas acceptables. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut mettre en place du personnel pour, en dehors des heures de cours, hein, et au-delà des heures de cours, pour aider les élèves à travailler, à s'améliorer, à faire ce qu'il y a, hein, du tutorat, des aides aux devoirs, etc., etc. Il faut favoriser les stages. Il faut favoriser l'orientation. L'orientation a été un sujet depuis dont l'État s'est très largement désengagé depuis des années. Hein. Or, les services d'orientation sont pas assez présents dans les lycées, pas assez présents et les élèves n'ont pas de vision sur ce qu'ils pourraient faire, et surtout il y a par rapport à la reproduction sociale, des gens qui ne s'imaginent pas, des jeunes qui ne s'imaginent pas qu'ils pourraient faire des métiers super intéressants, super motivants, et donc bon voilà. À part ça, il faut aussi, mais ça fait partie des conditions dans lesquelles les élèves travaillent, une alimentation saine et durable dans les lycées.
Alors on va continuer avec l'emploi. Comment garantir un accès égal entre les hommes et les femmes? Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans votre programme. Alors comment on y arrive? Est-ce que ces emplois soient plus égaux? Par exemple, sur la rémunération, ça c'est une grande question. Il y a une loi hein, quand même qui a été votée pour ça.
Il y a une loi. Elle est pas toujours respectée. Et la loi est respectée. Même si la loi est respectée, en réalité, l'égalité ne se mesure pas seulement à travail égal, salaire égal, mais au plafond de verre qui est souvent imposé aux femmes. De ce point de vue-là. La région va être sur le plan économique, la région est un acteur fondamental et distribue beaucoup d'aides, etc. Nous conditionnerons toutes les aides aux entreprises, hein, et nous les modulerons, c'est-à-dire avec un bonus-malus sur les conditions écologiques, bien sûr, hein, et les conditions sociales. Dans les conditions sociales, il y a plusieurs choses. Il y a le dialogue social, bien sûr, la qualité du dialogue social, le fait que les salariés soient réellement décideurs, hein, et des partenaires décideurs dans l'entreprise, avec le chef d'entreprise. Et puis, bien sûr, il y a la répartition des carrières, la qualité des carrières également entre hommes et femmes, qui doit être égal, et la modularité des aides, pardon, s'appliquera également dans ce cas-là.
Alors, il nous reste environ 2 minutes. J'aurais 2-3 petites questions à vous poser. Donc, dans son programme, Audrey Poulvard indique vouloir généraliser les territoires zéro chômeur de longue durée. Alors, comment on y arrive, hein? Parce que personne n'y arrive aujourd'hui encore.
Hein. Si. Il y a des expériences, particulièrement dans le sud-ouest, de territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires zéro chômeur de longue durée sont, en fait, les communautés qui le font, mm-hmm. Sont des communautés qui financent des entreprises à but d'emploi. Ces entreprises à but d'emploi sont des entreprises qui ne font pas concurrence aux entreprises classiques, hein, du marché classique, mais qui offrent des services aux particuliers, aux entreprises, etc., qui ne sont pas concurrentielles et qui sont généralement mal couverts. Et ce qui permet de proposer à des chômeurs de longue durée de les accompagner et de les remettre dans l'emploi. Hein, et ça marche réellement. C'est-à-dire, il y a des taux de réussite extraordinaires. Je ne comprends pas que la région Île-de-France, qui est quand même la région la plus riche de France, qui est la deuxième région la plus riche d'Europe, ne se soit pas emparé de ce sujet pour faire avancer les choses. Il y a vraiment moyen de réduire le chômage de longue durée en Île-de-France.
Allez, dernière question, quelques mots à présent sur la sécurité. Quelles mesures pouvez-vous mettre en place pour renforcer la protection des franciliens et franciliennes?
Donc la sécurité, ce n'est pas une compétence de la région, malgré tout. La région est compétente dans les transports. Donc, pour la sécurité dans les transports, nous garantirons la présence d'un agent de sécurité dans chaque rame de RER et de train en soirée. Dans les bus en soirée, les arrêts à la demande près du domicile seront généralisés. Nous créerons des postes de médiateurs et autour des lycées et renforcerons la lutte contre le harcèlement. Et nous aiderons aussi les communes à installer des caméras de vidéoprotection là où elles sont nécessaires et les polices municipales à équiper et former leurs agents en priorisant les territoires qui n'en ont pas les moyens.
Monique Brochot, Pierre Stolman, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de nous avoir invités.
Cette émission sera rediffusée à 13h et 19h. Demain, à 7h30, nous recevrons Bruno Millième. Il représentera la liste Laurent Saint-Martin, candidat tête de liste LREM au régional. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.